Les soldats de l'autre côté de la vallée mesuraient tous plus de 2 mètres. Mais celui qui s'est avancé mesurait plus de 3 mètres. Goliath a crié à travers la vallée vers Israël en disant: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et l'homme pour combattre Goliath était clair. Ça aurait été le roi, le juge d'Israël, Saül. Mais Saül avait trop peur. Chaque matin et chaque soir, la même chose s'est produite. Goliath se présentait et relevait le même défi. Les soldats israéliens restaient immobiles et effrayés. Mais le 40e jour, un jeune berger qui déposait des provisions pour ses frères entendit ces paroles du Philistin et il fut insensé. Ce jeune homme disait: Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Les soldats ont amené ce jeune garçon au roi pour raconter les mêmes paroles au roi. Et lorsque Saül a appris que David avait battu des ours et des lions en les prenant par la barbe pour sauver ses moutons, il pensa que ce jeune homme avait de la chance, avait une chance. Il a donné à David son armure, mais elle ne lui convenait pas, ça pesait trop. Au lieu d'une armure et d'une épée, David a choisi 5 pierres, a saisi son bâton et s'est dirigé, armé avec seulement cela, vers le gigantesque Philistin. Goliath a été offensé et en regardant ce garçon désarmé s'approcher de lui, il a dit: Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: Viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Suivez-moi à 1 Samuel 17, les versets 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47. Goliath était un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais voici qu'un garçon s'approche de lui. Un garçon armé d'un jouet. Mais ce que Goliath ne savait pas craindre, c'est que ce garçon s'en prenne à lui avec une ferme conviction, avec la foi solide dans le Dieu invisible. Si jamais nous voulions savoir à quoi ressemble la foi, c'est ici. C'est ainsi que David a répondu à Goliath. 1 Samuel 17, 45 à 47. A dit: Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera en mes mains. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête aujourd'hui et je donnerai les cadavres du corps aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura, ni par l'épée, ni par l'anse que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Nous pouvons penser de l'histoire de la sœur Monette ou de nos frères qui font face à la guerre imminente au Congo. Ce jeune berger a alors couru vers le Philistin, pas du Philistin, mais vers le Philistin, a balancé sa fronde et a enfoncé sa première pierre dans le front de Goliath. Et avec un bruit sourd, il tomba sur son visage. David a alors coupé la tête du géant avec sa propre épée Ce Philistin géant n'a été tué par la force, mais par la foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi est-elle simplement le pouvoir de la pensée positive? David se répétait-il sans cesse, je sais que je peux le tuer, je sais que je peux le tuer, jusqu'à ce qu'il se sente assez courageux pour l'affronter? La foi est-elle simplement le fruit de l'initiative, le fruit de la détermination, de la persévérance? Alors encore une fois, qu'est-ce que la foi? Aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur ce qu'est la foi. Il existe plusieurs façons de considérer la foi et toutes ont la même valeur. Et alors que j'aurais pu choisir de m'adresser à la marche dans la foi ou d'autres manières de m'adresser à la foi, je vais plutôt me concentrer spécifiquement sur ce qu'est la foi. Néanmoins, nous allons aborder un peu sur le sujet de la marche de la foi, dans la foi. Voyons donc notre premier point. Du niveau élevé, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Le point numéro un. Tout d'abord, nous savons que la foi, c'est un don du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, nous lisons, pas besoin d'y aller, mais la foi, c'est un don venant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons rassembler nous-mêmes, ce n'est pas le pouvoir des pensées positives, mais notre foi doit aussi être, bien que la foi, c'est un don, nous devons maintenir notre foi. Nous devons mettre un peu d'effort à maintenir notre foi, bien que ce soit un don. Mais il y a aussi une définition biblique de la foi. Et ça explique d'où vient la foi. Gardez votre place à 1 Samuel 17. Nous allons revenir sur ce chapitre. Et passons au chapitre de la foi dans Hébreux 11. Hébreux 11. Dans Hébreux 11, 1, nous trouvons que la Bible donne une réponse à cette question très succincte. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, vous connaissez bien ce verset. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ou depuis l'hébreu, on peut lire également la preuve, une démonstration ou une preuve de celle qu'on ne voit pas. L'auteur d'Hébreux explique la foi en termes d'une ferme assurance et d'une preuve. La foi est la preuve des choses qui ne sont pas visibles. C'est la preuve des choses qui existent actuellement, mais ne sont pas visibles. C'est la preuve des choses que nous ne pouvons voir ou toucher. C'est la ferme assurance de choses que l'on espère seulement. Nous espérons seulement quelque chose que nous n'avons pas encore. Sinon, pourquoi espérer? On l'a déjà. En définissant la foi comme étant la ferme assurance de la preuve de quelque chose qui ne peut pas être vu, Dieu nous dit que la foi est une croyance en quelque chose de concret et d'assuré. Elle est concrète et assurée, mais aussi quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas voir, mais pas encore. En bref, la foi est bien plus qu'une croyance. Si nous croyons que la foi, ce n'est qu'une croyance, nous nous trompons. Au contraire, la foi est la ferme connaissance que les promesses d'aide invisible de Dieu sont plus sûres que le soleil levant. La voie de sortie existe, elle est là, mais pas visible. Passons à 1 Samuel 17, 33. 1 Samuel 17, 33. Revenons donc sur cette confrontation avec Goliath. Le roi Saül pouvait voir Goliath. Il était visible pour lui. Goliath aurait certainement été difficile à ne pas remarquer. Il était visible, quelque chose de assez concret. La foi de Saül était toutefois dans ce qu'il pouvait voir. La foi de Saül était dans ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait toucher. C'est pourquoi il n'est pas porté volontaire pour combattre Goliath, parce qu'il avait confiance en ce qu'il pouvait voir. Saül a raconté à David ce qu'il a observé. Voilà ce qui était assuré fermement pour Saül. 1 Samuel 17, 33. Tu ne peux pas aller, il disait à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Il savait, il pouvait voir que ce serait impossible. Quand tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse, voilà ce qui était évident à Saül. Saül énonçait la seule chose qu'il était capable de percevoir sans la foi, celle qu'il pouvait voir de ses propres yeux. David, cependant, se fait à ce qu'il ne pouvait pas voir. Et ce que David ne pouvait pas voir est bien plus assuré, bien plus concret que ce que Paul pouvait voir. David a raconté à Goliath ce qu'il a vu. David a dit, aujourd'hui, voici ce qu'il a vu, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. C'était comme il était déjà fait. David pouvait voir cela à travers la foi. Cependant, Saül n'a vu que des choses visibles. Il s'est fié au visible. Mais le don de la foi a permis à David de voir des choses qui n'étaient pas visibles. Une démonstration de l'invisible, la preuve que l'invisible existe est déjà là, la voie de sortie. Ainsi, la foi est un don de Dieu que nous devons maintenir. C'est aussi la démonstration de l'invisible et la ferme assurance de ce que nous espérons. Donc, si nous avons cette ferme conviction des choses espérées, qui est-ce qui détermine ce que sont que ces choses qu'on ne voit pas? Qui décide en quoi nous avons cette ferme assurance? Est-ce que c'est moi qui décide ce qui est la voie de sortie? Non. Nous pouvons espérer beaucoup de choses. Alors, ces choses sont-elles déterminées par notre désir, par notre volonté? Donc, dans notre deuxième point, regardons qui est-ce qui détermine ce que sont que ces choses qu'on ne voit pas? Qui est-ce qui détermine, pour le point numéro 2, ce que sont ces choses qu'on ne voit pas? Passons à 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. La réponse est, sans surprise, Dieu. C'est Dieu qui détermine ce que sont ces choses. C'est Dieu qui nous donne la ferme assurance qui nous accordera notre désir, à condition que notre désir soit conforme à sa volonté. Et nous lisons dans 1 Jean 5, 14, 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance, et cette assurance, c'est la foi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir foi dans la volonté de Dieu et nous apprenons la volonté de Dieu en lisant sa parole. Notre foi nous dit qu'il fera tout ce qu'il a promis dans sa parole. C'est promis. Nous savons que tout ce qui est amour et souci des autres est aussi conforme à sa volonté. Sa volonté est que nous soyons heureux et féconds également. Alors, ce sont des choses dont on peut avoir confiance. Quand on a la foi, on peut avoir confiance de ce qui est sa volonté, en suivant sa parole, tout ce qui est bon. Mais est-ce que cela signifie que tout ce qui nous rendrait heureux ou fructueux serait sa volonté en cet instant? La réponse est non, pas nécessairement. La volonté immédiate de Dieu pour nous n'est souvent pas pour notre bonheur et notre confort. Au long terme, oui, mais pour l'instant, c'est comme Paul a dit, c'est à travers beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous pouvons voir comme exemple Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Il a demandé à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Il savait de quoi il s'agissait, cette coupe. Ce n'était pas comme sa crucifixion allait le rendre heureux. Alors, avait prié que cette coupe s'éloigne de moi. Et nous savons que même que c'était sa prière, la volonté de Dieu n'était pas que cette épreuve passe outre de lui. Et personne ne se réjouirait d'avoir des pics enfoncés dans sa chair. Mais pour être clair, Jésus avait la foi. Certainement. Il n'y a aucun sujet. Mais la foi de Christ n'est pas que Dieu l'épargnait de crucifixion. Ce n'était pas le média dans lequel Dieu s'intéressait. Allait donner le bonheur à Jésus au long terme, mais pas en ce moment. La foi de Jésus était plutôt que Dieu accomplirait sa volonté parfaite. Et cette foi que Dieu avait tout sous contrôle, lui a donné le courage de passer à travers sa crucifixion. Et nous savons que lorsque la volonté de Dieu est accomplie, le résultat, à la fin, est idéal. Ainsi, la foi concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et dans ce cas particulier de la crucifixion du Christ, la volonté de Dieu n'a pas immédiatement impliqué le bonheur et la joie, mais plutôt une douleur atroce. C'était toujours la foi. Et Jésus-Christ le savait. Il savait que la fin de la volonté de Dieu pour lui est bien meilleure que le coût de toute douleur. C'est pourquoi il a immédiatement donné suite à sa demande que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et il a pu marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort en toute confiance. Ainsi, la foi est bien plus que le fait que Dieu nous donne ce qui nous rend heureux aujourd'hui. Des fois, la foi implique la souffrance, ou bien souvent. Passons à Luc 12, 30 à 32. Luc 12, 30 à 32. Donc, nous pouvons prier pour nos besoins. Nous pouvons prier pour nos désirs. Et Dieu nous entend, bien sûr, et pourvoit nos besoins. Et il promet de pourvoir à nos besoins. Mais parfois, peut-être souvent, le moment où il accomplit ses promesses est comme le Christ l'explique ici dans Luc 12. Ici, le Christ ne faisait que discuter de la façon dont il pourvoit à nos besoins. Il a ensuite ajusté nos attentes sur le calendrier de Dieu. Luc 12, 30 à 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père Votre père sait qu'on avait besoin. 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et cela nous donne une idée du timing de Dieu. Pour chaque prière que nous avons faite où Dieu dit non, ou peut-être où il dit pas encore, c'est au royaume qu'il va répondre nos prières. Et peut-être plus tôt que ça, et souvent plus tôt que ça. Ainsi, le Christ avait une foi solide en Dieu. Il avait des preuves solides de l'invisible. Peu importe que Dieu lui accorde ou non cette requête, la foi ne dépend pas à la réponse instantanée de Dieu, la foi dépend de la volonté de Dieu. Jésus avait toujours la foi que Dieu était engagé envers lui et qu'il accomplirait sa volonté. Et cette foi lui donnait le courage de faire face à des difficultés insurmontables. Rien de tout cela ne signifie que Jésus-Christ ait demandé quelque chose de mal ou d'impie. Et il n'était certainement pas ignorant de la volonté de Dieu. Il n'y avait rien de mal à ce que le Christ demande si cela pouvait être fait d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, le Christ avait une foi parfaite et une solide conviction que la volonté de Dieu serait faite. Le revers de la médaille est quand Dieu nous accorde ce que nous demandons. Et ça arrive, comme lorsque Moïse a demandé à Dieu d'épargner Israël, après que Dieu a dit qu'il allait les détruire et recommencer à travers la famille de Moïse. C'était la volonté de Dieu. Il a répondu dans la manière positive à la prière de Moïse. Mais Moïse affirme le Christ. Il a demandé si la volonté pouvait être accomplie d'une autre manière. Il a raisonné avec Dieu. Il a expliqué que les nations penseraient alors du mal de Dieu s'il détruisait Israël. Et dans ce cas, Dieu a changé sa volonté. C'était la prière exaucée. Ça ne dit rien de la foi du Christ contre celle de Moïse, que Dieu a accordé à la demande de Moïse, mais pas à celle du Christ. Cela montre seulement la volonté de Dieu. Vous et moi sommes libres de demander à Dieu ce que nous désirons. Dieu nous dit de lui demander nos désirs. Dieu, notre Père, aimant tout, comme tout Père, il aime nous voir heureux et il veut nous donner. Notre désir doit être guidé par sa loi et selon sa volonté. Et nous connaissons sa volonté et sa loi en lisant sa parole. Ainsi, nous pouvons avoir des espoirs et rêves. Dieu veut que nous ayons des espoirs et des rêves. Nous pouvons et devons certainement demander à Dieu de nous accorder ce dont nous avons besoin et ce que nous désirons. Mais pour revenir à nos questions du début de ce point, qui détermine ce que sont ces choses qu'on ne voit pas? La voie de sortie, qui est-ce qui détermine ce qu'est que la voie de sortie? La réponse est que c'est Dieu qui le fait. Tant que ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu, il nous accordera ce que nous lui demandons. Et comme je l'ai déjà mentionné, Dieu nous dit dans Philippiens 4, 6 de lui faire connaître nos besoins. Il veut nous accorder nos besoins et nos désirs. Il y a cependant des moments où sa volonté est contraire à la nôtre. En fin de compte, c'est Dieu qui décide quelles sont les choses qu'on ne voit pas. Autrement dit, la voie de sortie. Ces choses sont décidées par sa volonté. Bien. Si notre foi consiste à attendre que Dieu agisse en notre faveur, cela signifie-t-il que nous n'avons pas besoin d'agir nous-mêmes? Est-ce que nous nous contentons de prier et d'attendre et tourner les pouces? Dans notre troisième point, examinons la foi en termes d'efforts que Dieu attend de nous. Point numéro 3. La foi en termes d'efforts que Dieu attend de nous. Revenons encore sur la confrontation de David avec Goliath. Nous pourrions poser la question, David n'aurait-il pas pu rester en retrait et attendre que Dieu protège miraculeusement Israël contre les Philistins et ne pas risquer sa vie devant ce géant? N'aurait-il pas suffi à David de croire cela et que ses croyances, sa foi en Dieu soit suffisante? En fait, non. Nous avons lu auparavant dans Deutéronome 7, verset 2, pas besoin de le reporter. Dieu avait dit à Israël de tuer les habitants du pays. Évidemment, la foi consiste d'agir dans certains cas. Et ce n'était pas à David de seulement rester tranquille et attendre à ce que Dieu frappe Goliath miraculeusement. Passons à Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. La foi en Dieu est alors une chose active. C'est une chose vivante. Vous voyez, c'est parce que nous avons des preuves de ce que nous ne pouvons pas voir que nous pouvons savoir agir avec courage. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. C'est qu'il marchera par la foi. Il agira par la foi. Mais s'il se retire, s'il reste tranquille, il tourne les pouces, mon homme ne prend pas plaisir en lui. Mais Saül a reculé. Il n'avait pas la foi que Dieu lui donnerait la victoire. Saül ne voyait pas de victoire contre Goliath. Il ne possédait pas la preuve de cette victoire invisible. Cependant, par la foi, David pouvait voir ce que Dieu ferait par ses actions. Et en fait, les actions de David étaient la preuve de sa foi. Il n'aurait pas suffi qu'il ait la conviction profonde que Dieu aurait simplement arrangé les choses. Ainsi, nos actions sont la preuve de notre foi. Et la foi, à son tour, est la preuve de l'intervention de Dieu, qu'elle soit éventuelle ou immédiate. La foi est la preuve de cet acte de Dieu encore visible. Suivez-moi à Jacques 2. Jacques 2, les versets 17 à 20. Jacques 2, versets 17 à 20. Donc, avoir la foi, c'est plus que simplement croire. Avoir foi, c'est agir en fonction de cette croyance. La foi n'est la foi que si nous faisons ce que nous savons faire. Donc, si nous ne faisons pas, si nous ne mettons pas d'efforts, ce n'est pas la foi. Jacques a expliqué la nécessité pour notre foi d'être active. Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, l'action, si on n'agit pas, si on n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois dans le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, vain, foi sans les œuvres est inutile? Si la croyance était tout ce qui était nécessaire à la foi, alors les démons seraient également fidèles. Et nous savons que ce n'est pas le cas. Mais nous montrons notre foi par nos actions ou Jacques par nos œuvres. La foi est donc une croyance dont nous ne reculons pas. C'est la foi qui nous pousse à agir en fonction de ce que nous savons être la volonté de Dieu, de ce qui est vrai et sage. OK. La foi consiste donc à agir sur ce que nous savons faire. Mais il y a aussi des moments où notre foi ne s'exprime pas par des actions. Il y a des moments où notre foi s'exprime plutôt par l'inaction. Dans mon 4 points, nous allons examiner comment nous pouvons exprimer notre foi par l'inaction. Encore une fois, comment nous pouvons exprimer notre foi par l'inaction? Voyez-vous, il ne nous appartient pas de résoudre tous nos problèmes. Certaines épreuves et certains problèmes exigent que nous restions tranquilles dans la foi et que nous attendions que Dieu les résolve. Notre réaction naturelle dans de telles épreuves, cependant, et vous étiez là et moi j'ai fait la même chose, nous essayons à prendre l'affaire dans nos propres mains. Tellement nous avons envie de quitter cette épreuve, nous essayons à résoudre l'épreuve nous-mêmes avec nos propres mains. Prenons un exemple où ne rien faire était l'expression parfaite de la foi. Dans 1 Samuel 13, cette fois-ci, 1 Samuel 13, les versets 8 à 11, dans cette histoire, Samuel avait dit à Saül qu'il viendrait dans 7 jours pour faire une offrande avec lui. Et Saül a attendu ces 7 jours, bel et bien. Mais lorsque Israël entendit parler des dizaines de militaires, des dizaines de milliers de chars et des cavaliers philistins qui venaient les combattre, ils tremblèrent de peur. Ils se cachèrent dans des grottes et derrière des buissons. Et Saül a paniqué. Saül voulait désespérément que Dieu se batte pour eux. Il voulait faire un appel à Dieu à travers cette offrande de Samuel, afin qu'il puisse redonner confiance à son armée. Mais ici, c'était le 7e jour, et Samuel n'était pas encore là. Lisons l'histoire. 1 Samuel 13, le verset 8. 1 Samuel 13, 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. 9. Alors il dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrit l'holocauste. Il a pris l'affaire dans ses propres mains. Comme il achevait d'offrir l'holocauste au mot exact, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui. Le saluer. 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Vous voyez, Saül était en train de subir une épreuve. Il avait désespérément besoin de Dieu à ses côtés. Cependant, ce n'était pas un problème que Saül devait résoudre. Ça existe pour vous et pour moi aussi. Des fois, nous faisons face à une épreuve où résoudre cette épreuve n'est pas à nous de faire. Dans ce cas, il aurait exprimé une grande foi en ne faisant rien. Mais Saül ne pouvait pas voir les preuves de ce qu'il ne voyait pas. Il ne pouvait pas voir que Dieu allait intervenir, car il voyait avec les yeux et pas à travers la foi. En bref, il n'avait pas la foi. Il a donc essayé de résoudre un problème qui n'était pas le sien à résoudre. Alors, il s'agissait d'un problème très clair qui mettait des vies en danger. Donc, il y avait un certain poids à cette épreuve. Mais même ainsi, ce n'était pas à Saul, de le résoudre. C'était à Saül d'attendre Samuel et d'attendre Dieu. Nous voyons la même chose dans nos vies. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas les nôtres à résoudre. Il se peut que ce que nous devrions faire n'est précisément rien. Dans ce cas, nous nous contentons de laisser le problème de côté. Nous devons prier à propos du problème, on continue à faire la demande auprès de Dieu, nous devrions même jeûner à ce sujet, mais nous devons lâcher prise complètement et laisser Dieu régler le problème. Exode 14, les versets 13 à 14. Suivez-moi à Exode 14, 13 et 14. Considérons ce que Dieu a dit à Israël au moment où ils quittaient l'Égypte. Il y avait d'un côté les montagnes, de l'autre la mer et derrière l'armée de Pharaon. Ils étaient acculés. Et Moïse leur a dit ce qu'était la foi dans cette épreuve-là. Exode 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, restez tranquille, inactif, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Des fois, la foi consiste de ne rien faire. La foi a été démontrée par l'immobilité d'Israël. Ils ont montré leur foi en ne paniquant pas et en n'essayant pas de prendre des raccourcis pour s'épargner la douleur. Il y a des moments où nous ne prenons aucune mesure en raison de la preuve de choses que nous n'avons pas vues. La voie de sortie est là, c'est invisible. Et à cause des choses qu'on ne peut pas voir, la voie de sortie qui existe, en raison de cela, nous restons tranquilles. Parce que Dieu entend nos prières. Et il fera pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Là encore, la foi est la preuve de l'intervention invisible de Dieu. En certains cas, notre rôle est de rester immobile. Par contraste au point précédent, des fois, la foi se montre à travers notre immobilité, par l'inaction. Passons maintenant à notre dernier point, cinquième et dernier point. Voyez-vous rapporter à nouveau à Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, 1. Dans ce point, nous allons examiner comment la foi n'est pas la preuve des choses vues. La foi n'est pas la preuve des choses vues, c'est-à-dire, elle n'est pas basée sur ce qu'on voit. La foi n'est pas basée sur ce qu'on voit. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ou encore, comme j'ai dit, une preuve de celles qu'on ne voit pas. Comme nous l'avons déjà dit, cela nous indique clairement et la preuve de la ferme assurance, et la ferme assurance des choses que nous ne pouvons pas voir et de celles que nous espérons. En d'autres termes, la foi est la preuve que le monde spirituel est réel. C'est la preuve que Dieu est réel et qu'il peut faire et fera ce qu'il a promis. Et la démonstration, la preuve d'elle qu'on ne voit pas. La preuve de la réalité du rôle que Dieu joue, c'est notre foi. Et c'est la preuve de ce qu'il peut faire et fera dans le domaine spirituel pour nous aider. Et tout cela, c'est clair. Cependant, ici, dans Hébreux 11:1, ça dit aussi une autre chose, c'est un peu caché, assez subtil, mais bien que la foi soit une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la foi n'est pas, ne consiste pas de ce que nous voyons. Nous avons tendance de mélanger notre foi avec ce que nous voyons. Cependant, la foi n'est pas le produit de ce que nous pouvons voir. En d'autres termes, notre monde de croyance doit être plus fort. Ce qui passe entre les deux oreilles, la foi, cette croyance, cette ferme assurance que la voie de sortie existe, ça doit être plus fort que ce que nous absorbons à travers nos cinq sens. Voyons un exemple. Passons à Matthieu 14. Matthieu 14, nous allons lire les versets 25 à 31. Matthieu 14, 25 à 31. Dans cette histoire, Jésus venait d'envoyer les disciples dans un bateau pendant qu'ils montaient sur une montagne pour prier. Alors, les disciples sont allés dans cette direction, vers la mer, et lui, aux montagnes. Et pendant la nuit, les disciples ont été ballottés par une tempête à la mer. Et puis Jésus s'est approché d'eux en marchant sur les eaux, comme on fait. Matthieu 14, 25, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, montant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il faut noter que c'était que Pierre qui avait tant de foi, les autres restaient dans la barque. Mais regardons ce qui a fait dans le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il mélangeait la foi avec ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait entendre du vent. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Elle lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, nous voyons que la réalité des vagues, du vent, est de plus réelle pour Pierre que l'évidence des choses qui ne sont pas vues. Cette espérance était noyée par ce qu'il absorbait à travers les cinq sens. Pierre a vu les vagues. Il a senti le vent. Ce qu'il percevait à travers ses cinq sens était plus réel de ce qu'il ne pouvait pas voir. Jusqu'à le fait que on ne peut pas voir cela, la réponse de Dieu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe déjà, c'est réel. La réponse, la voie de sortie existe déjà, mais c'est invisible. Et nous aussi, nous pouvons être comme Pierre. Nous pouvons avoir la foi, suivre cette foi, mais à un certain moment, les conséquences physiques de suivre Dieu commencent à se resserrer sur nous et nous font perdre cette preuve de ce que nous ne voyons pas. Et nous ne pouvons plus imaginer l'invisible. Prenons l'exemple de la dîme. Si, par exemple, les finances sont un peu étroites en ce moment, j'ai l'argent pour le loyer ou la dîme, mais pas les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous savons, nous comptons bien les conséquences de ne pas payer le loyer. C'est être expulsé de notre maison et vivre sur la rue. Lisons 2 rois, s'il vous plaît. Prenons 2 rois 6. 2 rois 6, les versets 15 à 17. 2 rois 6, les versets 15 à 17. Mais juste comme, tout comme pour Pierre, que le vent et les vagues ont brouillé sa connaissance de ce qui est plus réel que le monde physique. La menace d'expulsion peut être plus réelle à nous que la délivrance de Dieu. Notre foi est-elle basée sur ce que nous pouvons voir? Est-ce que nous mélangeons ce que nous voyons avec notre foi? Dieu fait une promesse très précise concernant la dîme de la 30. Il dit qu'il ouvrira pour nous les écluses des cieux. Alors, qu'est-ce qui est le plus réel? L'expulsion ou les promesses de Dieu? Donc, revenons à 2 rois 6. Dans ce passage, le serviteur d'Élisée est réveillé pour trouver ceci un jour. Imaginons être dans sa place. 2 rois 6, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, il boit son café, il regarde un peu la télé, puis il sort, il regarde autour de lui, et voici une troupe entourée de la ville. C'est comme mes amis à Lubumbashi envisagent présentement avec cette guerre au Congo. Il y a une troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Pour ce serviteur, la preuve des choses vues, physiques, était très réelle. Il a vu des chevaux, il a vu des chars encercler la ville. Cependant, lorsque nous voyons notre ville dans nos épreuves, lorsque nous voyons notre ville figurative entourée de chevaux, ou lorsque nous voyons que nous avons seulement assez d'argent pour le loyer, mais pas la dîme, nous devons nous rappeler ce qu'Élisée a montré à son serviteur dans le verset suivant. Le verset 7. Élisée a répondu, Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Sauf qu'ils n'étaient pas visibles. Élisée pria et dit, Éternel, fasse que ces choses soient visibles. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne. Pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élysée. pendant que le serviteur s'inquiétait pour les chevaux qu'il voyait. Dieu avait déjà mis en place la voie de sortie, la protection. Quand nous faisons notre part, nous devons savoir que Dieu fera la sienne. Ainsi, nous nous rappelons que la foi n'est pas la preuve des choses vues. C'est-à-dire, notre foi n'est pas basée sur ce que nous pouvons voir. Nous ne devons pas laisser le monde physique obscurcir notre vision claire de la preuve des choses non vues. Commençons à conclure. Nous avons commencé par regarder, point numéro un, qu'est-ce que la foi d'un haut niveau? La foi est la preuve de choses qui ne sont pas visibles. Point numéro deux, qui est-ce qui détermine ce que sont ces choses invisibles? Et c'est Dieu qui décide ce que sont ces choses invisibles. C'est lui qui décide ce qui sera la voie de sortie. Trois, nous avons vu que la foi, c'est l'action. Des fois, notre foi s'exprime à travers nos efforts. Quatre, nous avons vu que d'autres fois, la foi s'exprime dans l'inaction, par notre inaction. Et dernièrement, nous avons vu que la foi n'est pas la preuve des choses vues. Prenons l'opposé de Hébreux 11.1. La foi ne consiste pas de ce qu'on voit. Il ne faut pas mélanger ce que nous voyons avec la foi, la vision spirituelle des choses qui sont invisibles. Revenons à notre histoire de David. Sa bravoure sur le champ de bataille ne s'est pas construite le jour où il a livré des provisions à ses frères. Il a fallu des années, des années. Il devait faire face à beaucoup d'épreuves, grandes et petites, contre des ours, contre des lions. Armé de rien de plus que son bâton, sa fronde, sa force et son Dieu. Ce sont ces épreuves qui lui ont permis de faire face à Goliath sans crainte. Pour nous, quand nous approchons de la fin de cette ère, nous aussi, nous allons devoir faire face à nos propres Goliaths. Nous allons faire face à des grandes épreuves de cette ère qui vient très vite, à grands pas. Frères et sœurs, il nous incombe de plus en plus de renforcer notre foi à l'approche de cette période précaire. Pour conclure, je voudrais lire la parole de l'apôtre Pierre en 1 Pierre 1, 6 à 9. Cette âme dont la foi s'est effondrée en marchant sur la mer a fini par devenir expert sur le thème de la foi. Pierre a résumé notre foi de cette façon. 1 Pierre 1, les versets 6 à 9. 1 Pierre 1, 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Merci, frères et sœurs.